Effondrement, renaissance. Le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. André Malraux. Ce que la chenille appelle catastrophe, le visionnaire l'appelle papillon. Proverbe chinois. Je tourne un robinet et une eau froide ou chaude, parfaitement potable, coule en abondance. J'appuie sur un interrupteur à la fin du jour et une lumière s'allume instantanément, éclairant toutes mes activités, aussi tard dans la nuit que nécessaire. L'automne et l'hiver approchent. Une douce chaleur s'échappe des radiateurs sans que j'aie eu à faire le moindre geste pour cela. Je me déplace en voiture, utilise quantité d'appareils électriques censés me faciliter l'existence, communique en temps réel avec le monde entier, etc. Tout cela procède d'un luxe ahurissant, inimaginable il y a seulement un siècle. Un clin d'œil par rapport à l'histoire de l'Homo sapiens. Mais tous mes avantages matériels ont un prix. La réduction en esclavage des trois quarts de l'humanité, condamnée à la pauvreté, à la faim, aux épidémies de toutes sortes, à l'exode, à l'instabilité et à la violence sociale. La dévastation des forêts, le dérèglement général du climat, la mort des océans, la stérilité croissante des sols, etc. Tout cela était également inimaginable il y a seulement un siècle. Je vis dans cette civilisation occidentale. J'y appartiens physiquement et culturellement. Je bénéficie de ses avantages, je pâtis de ses inconvénients. C'est ma civilisation. Je suis un avec elle, pour le meilleur et pour le pire. Je partage donc totalement, solidairement, la responsabilité de son impact sur la planète et sur l'humanité. C'est notre besoin de sécurité lui-même qui nous a jetés dans un tel danger planétaire. La prédominance du confort sur l'éthique, de la jouissance immédiate sur la spiritualité, a creusé notre tombe collective. Nous sommes tombés dans un piège fabriqué par nous-mêmes. Bien sûr, l'état de crise multiforme actuel nous pousse aveuglément à chercher des responsables, des coupables. Dirigeants politiques, lobbies industriels, finances mondialisées, gouvernements de l'ombre, etc. Nous tentons ainsi de nous débarrasser de notre propre part de responsabilité, de la rejeter sur des autorités, sur des institutions dont nous avons élu les représentants. Mais nous participons tous de cette civilisation, de ses valeurs, de sa façon d'organiser la vie sur Terre. Les valeurs qui sous-tendent notre civilisation, croissance infinie, individualisme, compétition, maîtrise de la nature, peuvent être résumées en un seul mot. L'ego. L'ego avide de croissance sur tous les plans, indifférent à la souffrance d'autrui, très attentif à la sienne et prompt à la juguler dès qu'elle apparaît, par tous les moyens mis à sa disposition, quel qu'en soit le prix à payer, par autrui de préférence, quelles qu'en soient les conséquences pour la planète. L'ego, volontairement aveugle à sa propre finitude, à sa mortalité, obsédé par son intérêt immédiat, éventuellement aux dépens de tout et de tous. Les agréments et les distractions sécrétés par notre civilisation ne sont que l'expression en creux d'une fuite de la souffrance, d'un refus de l'évidence, d'un déni de la mort. Paradoxalement, cette civilisation de l'ego accroît considérablement la souffrance globale du monde et de l'humanité, y compris en son sein. Elle révèle chaque jour un peu plus ses failles et ses contradictions et répand la mort sur tout ce qu'elle accapare. L'ego est prédateur par nature. Sa soif de pouvoir, de richesse, de reconnaissance, de plaisir est inextinguible. Il dévore pour croître. C'est inscrit dans son ADN. La crise que nous traversons n'est pas due à une organisation politique défaillante, à la corruption des élus, à l'agressivité conquérante des grands groupes industriels, à la cupidité des banquiers et des actionnaires, au gâchis et à l'irresponsabilité écologique de tout un chacun, à la résurgence des fanatismes religieux, ni au repli nationaliste et identitaire. Non, toutes ces manifestations clairement observables ne sont que des symptômes d'un mal plus profond, d'un virus universellement répandu et dévastateur. L'ego. Une des particularités de ce virus est qu'il demeure ignoré de ceux qui en sont le plus atteints. Caché au plus profond de l'être humain, il reste inaccessible à son regard tant que celui-ci reste tourné vers l'extérieur. Une autre de ses particularités est qu'il paraît inhérent à l'être humain comme une composante intrinsèque. Mais une autre composante intrinsèque de l'être humain, de l'espèce humaine, est sa recherche de la vérité concernant la vie, sa vie. De tout temps, sur tous les continents de notre planète, des chercheurs spirituels de tous horizons se sont laissés inquiéter par les questions essentielles, se sont arrachés à l'ensorcelante séduction des apparences et ont, peu à peu, appris à tourner leur regard vers l'intérieur, débusquant ainsi la cause de tous leurs maux. La neutralisation de l'ego est une constante de toutes les voies spirituelles. Il s'agit, à chaque époque, en chaque lieu, d'un petit nombre d'individus concernés. Mais envisagés dans la perspective de plusieurs millénaires et à l'échelle planétaire, ces chercheurs de vérité constituent une masse impressionnante. Certains d'entre eux ont laissé des traces, traditions orales, écrits, monuments, d'autres non. Ils n'ont pas résolu les problèmes de leur époque, de leur civilisation. Ils n'en ont pas non plus épousé les rêves et les ambitions. Ils ont simplement cessé d'en alimenter la cause en eux-mêmes. Quelques-uns ont témoigné de cette réalisation intérieure par des enseignements qui ont parfois fortement impacté les croyances et les représentations de l'espèce humaine. La plupart en ont témoigné simplement par leur état d'être, par une attitude radicalement différente vis-à-vis des événements et de leurs contemporains. Le premier pas sur la voie, quelle que soit la forme et le langage que cette voie emprunte, est la compréhension des mécanismes d'enfermement de la conscience par elle-même. Il s'agit là d'informations intelligibles. Pour bien préparer une évasion, il faut d'abord étudier minutieusement le plan de la prison, ses points faibles, le rythme des relèves de garde, les jours et les heures d'approvisionnement ou de transfert, etc., et connaître les rudiments de la vie hors des murs. Le deuxième pas est le ressenti douloureux de la pression de l'ego, l'expérience intime de son emprise multiforme et de ses conséquences sur le corps, sur les émotions et sur les pensées. Cette connaissance de première main va donner à l'information intelligible saveur, relief, couleur. Elle l'anime, lui donne vie et suscite un puissant désir de libération, un élan dynamique. Sans cette animation, sans cet indispensable supplément d'âme, sans cette émotion, cette lame de fond, la compréhension purement intellectuelle reste lettre morte, intérêt superficiel. Elle ne fait rien bouger, et elle ne nous met pas en mouvement. Elle nous ouvre les yeux, mais nous restons paralysés. Lire un article sur une famine ou une dictature n'est pas du tout la même chose que les subir dans sa chair. L'information devient conscience claire par l'expérience intérieure. Le troisième pas est l'engagement personnel sur la voie, la désobéissance consciente et volontaire, quotidienne, aux injonctions de l'ego, sur la base de la compréhension, de la connaissance de soi et de l'aspiration à l'affranchissement. C'est un travail de dépouillement, de neutralisation des automatismes d'abandon à la voie elle-même. Il en résulte une sorte de légèreté inconfortable, de dépossession libératrice, mais aussi une immense gratitude de pouvoir mettre fin à des décennies d'auto-esclavage. Le quatrième pas découle tout naturellement des précédents. Il s'agit d'une attitude neuve, non programmée, face aux circonstances, événements, rencontres. D'une attitude dans tous les aspects de l'existence qui tient compte spontanément de l'intérêt du tout, du bien commun, qui inclut aussi, mais pas seulement, soi-même. Un désintéressement lucide, une serviabilité dégagée de toute attente. La culture et l'éclosion de ces quatre aspects de la voix ouvrent la porte d'un nouveau monde, d'un champ de conscience jusqu'alors inexploré. Il ne s'agit pas d'un domaine plus ou moins lointain, à l'orée duquel notre cheminement nous aurait conduit. Non, le nouveau monde a toujours été, est encore et sera toujours ici même. Simplement, notre état de conscience antérieur, inapproprié, parce que centré sur lui-même, nous en interdisait l'accès. Lorsque le brouillard épais de l'égocentrisme se dissipe, une nouvelle réalité apparaît. Il ne s'agit pas d'un voyage vers, mais d'une élévation progressive du niveau de conscience qui ouvre à un domaine de perception tout autre, en permet l'entrée effective et dévoile une capacité d'action neuve. Rêver d'une société équitable, non violente, basée sur le respect du bien commun et de la nature, reste une utopie si l'on ne résout pas prioritairement la question de l'ego. C'est comme concevoir une bergerie modèle où les moutons pourraient mener une vie heureuse, saine, équilibrée et épanouie, sans envisager d'abord l'élimination du loup qui l'habite. La destruction de l'ego est la condition sine qua non de la résolution de la crise multiforme actuelle. Dans la mesure où cette crise globale met en évidence la possibilité d'une extinction imminente et violente de l'espèce humaine, extinction due aux conséquences de sa manière de penser, de désirer et d'agir, on peut en déduire que l'éveil d'une nouvelle conscience libérée des automatismes de l'ego est un passage obligé si l'on veut considérer notre survie collective. Pour paraphraser André Malraux, l'être humain du troisième millénaire sera spirituel ou ne sera plus. C'est notre première et dernière responsabilité. Si nous ne nous attelons pas à cette tâche, alors nos efforts pour préserver la planète et son humanité ne seront qu'une agitation vaine, insuffisante. L'émergence du nouveau et éternel paradigme esquissé plus haut, l'autorévolution intérieure, silencieuse et assidue, possiblement hâtée par la faim qui menace, sera seule capable de semer les germes d'une renaissance civilisatrice ayant su tirer les conséquences du passé, de l'erreur fondamentale d'aiguillage dont nous sommes à la fois responsables et victimes. Notre seul choix, notre seule liberté réside dans l'attitude que nous adoptons ici même, aujourd'hui, face à l'incertitude qui caractérise notre existence. La société qui nous entoure est une construction dont nous sommes les pierres vivantes. Si les pierres sont pourries, se désagrègent, quoi d'étonnant à ce que la construction s'effondre? Ce n'est pas d'un nouvel agencement des mêmes pierres dont nous avons urgemment besoin aujourd'hui, mais d'une transformation radicale, d'une véritable mutation, d'une régénération, d'une guérison spirituelle de ces pierres que nous sommes. Alors seulement, il pourra être question d'une toute nouvelle organisation de l'humanité, d'une organisation saine, pacifique, inspirée, aimante, heureuse. L'égocentrisme, cette maladie de la conscience, cette drogue hallucinogène qui rend l'être humain capable de croire qu'il est au centre de tout, bien que non vu, non reconnu, domine universellement. La solution, tant désirée, ne viendra pas d'un nouveau modèle d'organisation, mais réside dans la renaissance d'un homme nouveau, d'une femme nouvelle, régénérée de l'intérieur par un travail sur soi intense, profond, sincère, persévérant et sans complaisance. Non pas d'une tentative d'atteindre un quelconque objectif, aussi louable soit-il, mais sur la base d'une compréhension, d'une aspiration et d'une détresse prenant leurs racines au plus profond de l'être, cet abysse inaccessible à l'ego. Sur la base d'une certitude, que c'est la seule voie que vous désiriez, deviez et puissiez emprunter, et d'une compassion authentique et désespérée pour votre humanité souffrante. En tant que collectivité humaine, nous approchons dangereusement d'un point de rupture historique. Le mur fatal est maintenant très proche et nous accélérons chaque jour. Cette situation, inédite dans l'histoire planétaire parce que globale, où les activités d'une seule espèce menacent la survie de toutes les autres, y compris donc sa propre survie, est à la fois angoissante et passionnante. Car elle nous met, nous, ses auteurs, dans l'obligation de prendre la mesure de notre aveuglement, de notre déraison, d'ouvrir les yeux et d'y remédier activement. Nous avons ainsi la chance inouïe d'être, pour ainsi dire, acculés à lâcher nos prérogatives, nos conceptions erronées et destructrices de nous-mêmes, de nos semblables et du vivant, pour effectuer enfin le saut quantique auquel nous invitent depuis toujours les traditions spirituelles. Franchir le pas décisif d'une révolution totale de la conscience, seule issue aux problèmes majeurs que nous sommes devenus en tant qu'individus et en tant qu'espèce. Nous ne sommes pas en face d'un problème, nous sommes le problème lui-même. Toutes les autres espèces encore vivantes sur Terre pourraient en témoigner si elles étaient douées de parole. La collision, le clash actuel, dont nous sommes aussi bien les témoins que les acteurs, oppose, d'une part, notre aspiration infinie à un monde de lumière, et d'autre part, un monde matériel apparemment toujours plus sombre, lourd, complexe, agité, étouffant, injuste, inhumain, difficile à vivre. D'une part, notre soif d'une humanité nouvelle, tournée vers la source intérieure d'où tout provient, et d'autre part, une conscience moi de plus en plus dense, cristallisée, crispée sur ses préoccupations et intérêts immédiats, dominée par la peur de perdre ou de manquer, par son avidité sans borne pour le contrôle, les possessions matérielles, le plaisir et la sécurité. La crise actuelle est en fait la résultante de cette division intérieure, de cette déchirure profonde de l'être devenu insoutenable. Un nouvel être humain doit naître, va naître, accouché par nous-mêmes, totalement nettoyé des scories de l'illusion et de l'égocentrisme dévastateur de réalité. Il ne peut renaître que des cendres de l'ego. Un chemin de retour à la sagesse n'est plus une option. C'est l'ultimatum que nous lance la nature et notre propre survie matérielle. Au bout de ce chemin, s'épanouissent et croissent les fleurs du bon sens, de la sobriété, de l'humilité, de la connaissance et du respect des lois de la vie, de la conscience de l'unité de tout et de tous, de la responsabilité et de la compassion.